Bonjour, au micro Idrissa Seloudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Au Sénégal, le collectif de contestation Mouvement de Défense de la Démocratie a appelé mardi à des manifestations pacifiques à Dakar et dans tout le pays samedi pour réclamer la libération des prisonniers qu'il qualifie de politiques. Nathalie Barge nous en parlera. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a remporté les législatives du 6 mars, mais a perdu la majorité qualifiée au Parlement qu'il détenait avec ses anciens alliés. Nanit Talani fera le point. En République démocratique du Congo, 6 personnes soupçonnées de kidnapping ont été lynchées par des habitants en colère après l'enlèvement d'une fillette dans la province du Nord-Kivu, a-t-on appris mardi de sources locales. RDC toujours, selon l'AFP, 16 personnes, dont le docteur Jean-Paul Mundama, ont été condamnées à mort en leur absence pour l'assassinat en 2019 de l'épidémiologiste Richard Valéry Mouzoko Kibong, un médecin camerounais employé par l'OMS, engagé dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. La peine de mort n'est plus appliquée en RDC depuis un moratoire décrété en 2003. En Guinée équatoriale, le bilan continue de s'alourdir mardi avec 105 morts et 615 blessés deux jours après les explosions qui ont ravagé un camp de l'armée et d'innombrables maisons. Le président Teodoro Obiang-Nguema accusant à nouveau les militaires de négligence coupable. Les chances de retrouver vivantes de nombreuses victimes ensevelies sous les ruines s'amenuisent, disait-on hier. Au moins 39 migrants, dont au moins 9 femmes et 4 enfants, ont péri mardi dans le naufrage de deux embarcations de fortune au large de la Tunisie, et 165 autres, originaires de différents pays d'Afrique, ont été secourus au moment où des ONG s'inquiètent d'une augmentation des départs clandestins pour l'Europe. Le Parlement zambien a adopté mardi un projet de loi réprimant les abus sur Internet, comme le harcèlement en ligne, faisant craindre à l'opposition que le pouvoir ne s'en serve pour censurer Internet lors des élections en août. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que le harcèlement en ligne était en hausse dans le pays et visait les adultes comme les enfants. En bref, l'activité économique de l'Afrique du Sud a enregistré en 2020 sa première contraction annuelle depuis 11 ans en raison de la crise liée à la pandémie mondiale de COVID-19 et malgré un rebond au quatrième trimestre, selon les données officielles. Le Brésil a battu mardi son record journalier de décès du COVID-19 avec 1972 décès officiellement signalés, sans aucun signe de ralentissement de la pandémie dans un pays où le système hospitalier est débordé et où la vaccination progresse lentement. Le Congrès américain devrait adopter ce mercredi le plan de relance colossal du président Joe Biden grâce au seul soutien des démocrates qui lui offriront ainsi une victoire marquante en début de mandat. La sélection des jurés qui décideront du sort du policier blanc accusé du meurtre de l'Africain-américain George Floyd a commencé mardi à Minneapolis, dans le nord des États-Unis, donnant le coup d'envoi d'un procès hors norme. 9 mois après la mort de Floyd, qui a déclenché un débat de fond sur la police et le racisme aux États-Unis. Le président Joe Biden s'entretiendra vendredi par visioconférence avec les premiers ministres de l'Australie, de l'Inde et du Japon lors du tout premier échange au sommet du Quad, l'alliance montante qui vise à contrebalancer la puissance chinoise. La reine Elisabeth II a assuré mardi le prince Harry et sa femme Meghan de son affection et promis de traiter en privé les accusations de racisme lancées par le couple, assurant les prendre très au sérieux. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Seloudia, restez à l'écoute pour la suite de nos informations. suite de nos informations, au Sénégal, le collectif Mouvement de défense de la démocratie a appelé hier à des manifestations pacifiques samedi pour réclamer la libération des prisonniers qu'il qualifie de politiques. Nathalie Barge.
Dans un communiqué, le mouvement de défense de la démocratie a aussi appelé à une journée de deuil national vendredi, en hommage aux personnes tuées dans les troubles. Il appelle les Sénégalais à s'habiller en blanc et à accrocher des tissus blancs à la façade de leur maison ou sur leur voiture. Le M2D a suspendu son appel à manifester mardi et mercredi au lendemain de la libération de l'opposant Ousmane Sonko et d'un discours d'apaisement du président Macky Sall. Le Sénégal a été le théâtre la semaine passée de violents affrontements entre jeunes et forces de l'ordre avec des scènes de pillage après l'arrestation de Sonko, pressenti comme l'un des principaux candidats à la présidentielle de 2024. Monsieur Sonko a été inculpé lundi dans une affaire de viol présumé à la suite d'une plainte déposée contre lui. Le juge l'a laissé rentrer chez lui en le plaçant sous contrôle judiciaire. L'opposant crie au complot pour l'écarter de la prochaine présidentielle, ce que le chef de l'État a réfuté.
En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a remporté les législatives du 6 mars, mais a perdu la majorité qualifiée au Parlement qu'il détenait avec ses anciens alliés lors d'un scrutin qui s'est déroulé sans violence. Le Point avec Nani Talani.
Le RHDP, le parti au pouvoir, remporte la majorité absolue avec 137 sièges sur 254 contre 91 pour les partis d'opposition. La mouvance perd la majorité qualifiée des deux tiers qu'elle possédait depuis 2016 lorsqu'elle regroupait le parti du président Alassane Ouattara, le PDCI d'Henri Conan-Bédier et d'autres alliés. Le RHDP l'a emporté à Abobo, grande commune populaire d'Abidjan, et dans plusieurs anciens fiefs du PDCI, dont Yamoussoukro et Grand Bassam. La coalition entre le PDCI de Bédier et les partis de l'ex-président Gbagbo obtient 50 sièges, le PDCI seul 23 et les pro-Gbagbo sur 8. Les autres partis d'opposition se partagent 10 sièges, les indépendants obtiennent 26 sièges. Ces législatives ont consacré le retour à l'Assemblée nationale des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui boycottait tous les scrutins depuis 10 ans. Son fils aîné Michel Gbagbo a été élu à Yopougon, la plus grande commune de tout le pays.
Les États-Unis considèrent que le moment est venu pour établir un gouvernement inclusif et représentatif au Soudan. C'est ce qu'a affirmé mardi leur représentante permanente à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. Des précisions de Mohamedou Humfa.
6 mois se sont écoulés depuis la signature de l'accord de paix de Juba entre le gouvernement de transition dirigé par des civils et les groupes rebelles. Et pourtant, le peuple soudanais n'a pas vu l'engagement des parties signataires nécessaire au progrès, a déploré l'ambassadrice américaine à l'ONU lors d'une visioconférence du Conseil de sécurité sur le Soudan. Linda Thomas-Greenfield a estimé que le Soudan devrait achever la formation d'un conseil législatif de transition inclusif comprenant au moins 40% de femmes. Il devrait aussi créer les forces de sécurité nécessaires au Darfour, une région longtemps meurtrie par les violences, notamment une attaque en janvier qui a fait 163 morts et 50 000 déplacés. Elle a également invité les autorités soudanaises à créer un état de droit et à mettre en œuvre d'autres mécanismes de justice transitionnelle, y compris un tribunal spécial pour les crimes au Darfour. Depuis la destitution en avril 2019 de l'ancien président Omar el-Béchir, sous la pression populaire, le pays connaît une transition politique fragilisée par une crise économique profonde. Il s'est doté, il y a près d'un mois, d'un nouveau gouvernement chargé de mener à bien la transition politique.
La Minute Éco, Nani Talani.
Au Soudan du Sud, la co-entreprise entre la Compagnie nationale du pétrole Nilepet et la société russe Safinat a lancé la raffinerie Benchu au coût de 100 millions de dollars pour produire 10 000 barils de brut par jour et du diesel. C'est l'une des 5 raffineries censées favoriser l'autosuffisance dans un pays qui possède les 3e réserves pétrolières d'Afrique subsaharienne, mais importe toujours du carburant pour satisfaire sa demande. La Grande-Bretagne va restituer au Nigeria près de 5 millions d'euros saisis sur les comptes de James Ibori, un ex-gouverneur nigérian condamné pour corruption par un tribunal londonien. C'est la première fois que l'argent récupéré auprès de criminels sera retourné par Londres à Abuja depuis l'accord signé en 2016 pour restituer de manière responsable et transparente l'argent détourné des caisses de l'État nigérian. Cet argent est censé financer des projets d'infrastructure, même si les fonds restitués via la politique anticorruption du gouvernement de Buhari échappent à la surveillance des institutions. Pour terminer, les importations de l'huile d'olive devraient se fixer à 950 000 tonnes en 2020-2021, soit une baisse de 17% comparée à la saison 2019-2020. Les exportations devraient aussi être à 950 000 tonnes, représentant une baisse de 21% selon les prévisions du Conseil oléicole international. Les analystes pointent du doigt la mauvaise conjoncture liée au Covid qui a fragilisé le pouvoir d'achat des consommateurs.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La première journée de la phase de poule de la Coupe CAF se dispute ce soir. Le CF Sfaxien de la Tunisie reçoit les Burkinabés de Sanitas FC. Enyimba du Nigeria reçoit Al Ahly Benghazi de la Libye. Les Sénégalais de Jaraf se déplacent en Algérie pour y affronter l'étoile sportive du Sahel. Pyramide FC d'Égypte reçoit Nkana de la Zambie. Le Raja Casablanca fera face à Namungu de la Tanzanie. Les autres Marocains de Berkane accueillent Nafsa Star de la Zambie. La JS Kabylie joue contre Coton Sport de Garoua. Les autres Algériens de Sétif feront face au Sud-Africain d'Orlando Pirates. Ligue des champions ce soir en Europe. Deux matchs au programme à 20h temps universel. Vainqueur 2-0 à l'aller contre Leipzig. Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita et Joël Matip est dans une bonne dynamique en Ligue des champions, a affirmé hier son coach Jurgen Klopp. Soucieux de faire oublier à son groupe sa série récente de contre-performances en championnat, ce huitième de finale retour se disputera comme à l'aller à Budapest en Hongrie. En raison des difficultés de voyage liées au règlement anti-Covid-19 en Allemagne, dans l'autre huitième de finale retour, le triomphe au match aller à Barcelone 4-1 a fait du PSG l'immense favori pour la qualification. Mais le club parisien sans Neymar doit encore surmonter le traumatisme persistant de la remontada. Bien que vainqueur en effet 4-0 à l'aller, le PSG avait sombré au Camp Nou 6-1 au match retour en mars 2017. Hier, le prodige de Dortmund, Erling Haaland, auteur d'un nouveau doublé contre Séville et qualifié pour les quarts de la Ligue des Champions, a encore affolé le compteur et le record. Déjà auteur d'un doublé à l'aller en Andalousie 3-2, il a récidivé en inscrivant deux nouveaux buts, score final 2-2. Plus que jamais leader de cette édition avec 10 buts, l'attaquant de 20 ans en est désormais à 20 buts en 14 matchs de Ligue des Champions dans sa carrière. Il dépasse ainsi l'attaquant français du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, qui a inscrit 19 buts en Ligue des Champions avant son 21e anniversaire. Il devient également le joueur à atteindre le plus rapidement cette barre en 10 matchs de moins que l'ancien détenteur du record, l'anglais Harry Kane. Il est aussi le premier joueur à marquer 4 doublés consécutifs en Ligue des Champions. Dynamique opposée chez le Portugais Cristiano Ronaldo, 16 ans de plus que le Norvégien, battu à l'aller 2-1 par Porto, CR7 et les Bianconeri, ont cru renverser la vapeur lors d'un match retour fou à Turin. Même si les Turinois ont arraché la prolongation, Porto vainqueur à l'aller 2-1, s'est finalement qualifié malgré sa défaite 3-2.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'opposant tchadien Yahya Dilo Diérou, dont la maison a subi un assaut des forces de sécurité le 27 février, vit toujours caché. Malgré la mort de sa mère et de son fils durant cette attaque à N'Djamena, il dit avoir toujours le moral et reste déterminé à empêcher la tenue du scrutin présidentiel du 11 avril. Sa candidature a d'ailleurs été rejetée par la Cour suprême. Abdourahmane Dia a pu entrer en contact avec Yahya Dilo, qui promet de saisir les juridictions internationales.
C'est dur, c'est tout à fait extrêmement dur de voir des gens venir comme ça abattre celle qui vous a mis au monde, mais sachant pertinemment que beaucoup de Tchadiens ont perdu leur maman, leur papa avec ce régime, je me dis quelque part que je dois avoir la même douleur que les autres. Les autres ont vécu assez longtemps avec la même douleur. Et quand à chaque fois que je pense à ma mère, je pense aussi au père d'Umni Moi, parce qu'il y en a beaucoup, nous ne sommes pas les deux, il y en a beaucoup. Donc je rejoins un peu toutes les familles endeuillées par des vies.
Alors, les autorités dégagent toute responsabilité dans la mort des membres de votre famille. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela?
Je crois que M. Deby a un penchant criminel qui ne lui permet pas de reconnaître les actes qu'il pose. Et ça, c'est sa nature. Comment mobiliser des chars, des blindés, des véhicules lourds de guerre, des milliers de soldats, plus de 300 véhicules qui a encerclé seulement juste une concession de 300 mètres carrés et prétendre tirer sur des civils qui étaient dans la concession et prétendre ne pas endosser la responsabilité.
Mais qu'est-ce qu'on vous reproche?
En réalité, on me reproche d'avoir porté ma candidature à la magistrature suprême du pays.
Et aujourd'hui, les autorités vous recherchent pour meurtre. Vous sentez-vous en danger?
Pour meurtre, non, ils le savent très bien. C'est eux les criminels qui ont abattu ma mère, qui ont abattu mon fils, qui ont blessé 5 membres de ma famille. Les criminels, c'est Deby. C'est moi qui, d'ailleurs, qui dois porter l'affaire au niveau international pour que les despotes soient conduits devant la Cour pénale internationale pour avoir commis d'autres crimes, certainement, mais ces crimes, c'est au vu aussi de tout le monde. Dans un cadre politique, je crois que le monde entier a témoigné. Je crois que ces crimes ne doivent pas passer inaperçus.
Justement, j'allais vous demander ce que vous comptez faire, puisque votre candidature à la présidentielle du 11 avril a été rejetée et vous êtes obligé de quitter votre domicile de N'Djamena.
Nous allons nous organiser avec mes camarades et aussi avec les leaders de la classe politique de l'opposition et pour faire en sorte qu'une telle élection n'ait pas lieu. C'est notre ambition la plus ferme. Je crois avec l'appui de la communauté internationale. Si la communauté internationale cautionne ce type d'élection, je crois que le monde est mal parti.
C'était l'opposant tchadien Yahya Dilo qui vit en cachette depuis l'attaque de son domicile à N'Djamena. Après l'attribution du prix Mo Ibrahim 2020 à leur président sortant, Issoufou Mahamadou, certains Nigériens ont réagi. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Beaucoup de Nigériens ont salué l'attribution de ce prix à leur président sortant, Issoufou Mahamadou.
Ce n'est que justice rendue au président Issoufou qui, de bout en bout, est resté cohérent avec sa promesse de quitter le pouvoir à l'issue de ces deux mandats que la constitution de notre pays autorise. Vous voyez tous les efforts qu'il a fournis au cours de ces deux mandats, non seulement pour l'émergence de notre pays, pour le développement de la démocratie, la protection des libertés individuelles et ainsi de suite. Donc comme un sentiment de fierté de voir la fondation Mo Ibrahim récompenser les accomplissements, le leadership du président Issoufou par ce prestigieux prix.
Oui, en tant que Nigérien, je crois que je ne peux qu'exprimer ma joie et ma grande satisfaction de voir mon président recevoir ce prix Mo Ibrahim qui est tellement convoité par les chefs d'État africains. Et je pense que c'est un prix amplement mérité. Et nous sommes aujourd'hui extrêmement heureux qu'il ait remporté ce prix-là.
Pour certains, cette distinction reste tout de même une grande surprise.
Pour nous qui vivons en Niger, le bilan de Issoufou est désastreux, calamiteux, à voir en termes de politique publique. Et c'est pendant son règne que nous avons vu une amplification d'État qui sont la corruption, l'impunité, l'explosion des inégalités, le détournement des données publiques, l'enrichissement sur le bien commun, etc. Et pour finir, vous avez bien vu que pour le processus électoral qui est en cours au Niger, Issoufou a tout fait, il est en train de tout faire pour influencer sa succession et qui nous a conduit aujourd'hui dans cette impasse politique dans laquelle nous vivons, où deux présidents se sont déclarés élus à l'issue du scrutin présidentiel du second tour du 21 février. Dans ces conditions, je suis quand même assez surpris qu'on me dise que le primo Ibrahim a été attribué à Mahamadou Issoufou.
Les actions qui lui ont valu ce prix, le président Issoufou Mahamadou compte tout de même les poursuivre à travers la mise en place d'une fondation.
Il est sûr qu'après mon départ le 2 avril, après avoir passé le témoin, je continuerai mes actions dans la droite ligne de ce que j'ai fait pendant ces deux mandats. D'ailleurs, j'ai l'intention de mettre en place une fondation. Et cette fondation aura pour but la promotion de la démocratie, la promotion de la paix, la promotion du panafricanisme, le développement du capital humain et le climat.
Abdel Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Cameroun lance une nouvelle campagne contre les discours haineux et xénophobes dans les médias locaux et les réseaux sociaux. Cette campagne fait suite à la montée des publications contre certains groupes ethniques dans différents supports médiatiques. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
La campagne nationale de communication contre les discours haineux et xénophobes s'étend sur 3 mois. Elle est pilotée par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Peter Mafani Moussonguet, président de la dite commission.
Le discours de haine et la xénophobie fragilisent l'unité nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Ils structurent les replis identitaires et concourent au dénigrement et au rejet de l'autre.
Les sujets d'actualité politique, sportive ou culturelle vivent très souvent aux insultes et au dénigrement de certains groupes ethniques. Des journalistes s'y trouvent parfois impliqués, comme lors de la récente affaire du contrôle de l'exécutif à la Fédération Camerounaise de football. Armand Boyomo, de Zen Radio, à Sarmelima.
Les acteurs des médias ont outrepassé leur rôle qui était censé être celui d'informer et d'analyser la situation. Les unes de certains journaux étaient ronflantes. Le camp opposé était traité de tous les noms d'oiseaux.
Pour Citizen Initiative, une organisation de la société civile camerounaise qui œuvre pour la transformation sociale et le changement de comportement, il est important de sensibiliser les populations à une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Ernesto Yene, coordonnateur de Citizen Initiative.
Vous pouvez être d'une tribu X et n'avoir rien à faire, ou rien à voir avec ce que certaines personnes de cette tribu-là font dans la gestion des affaires publiques. C'est cet amalgame-là qu'on voudrait enlever dans l'esprit des Camerounais.
Le ministre de l'administration territoriale a par ailleurs servi une sévère mise en garde à certains médias locaux qui, d'après lui, s'apparente à Radio Mille Collines, en référence à une radio qui avait incité à la haine ethnique au Rwanda lors du génocide de 1994. Paul Atangadi, ministre de l'administration territoriale.
Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio Mille Collines. En matière de droit, le voleur et les receleurs sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu.
Depuis 2 ans, le gouvernement a également pénalisé les infractions sur l'outrage à la tribu ou à l'ethnie. Maître Pélérine Tchatat, avocate au barreau du Cameroun.
La loi de 2016 n'avait pas légiféré en la matière et celle de 2017 est venue donc corriger. En son article 241 nouveau, intitulé « Outrage à la tribu ou à l'ethnie », dispose « Est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. »
La tenue d'un colloque national est l'une des activités phares de la campagne contre les discours haineux et xénophobes au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine. La démocratie sénégalaise mise à l'épreuve. L'arrestation du député Ousmane Sonko a plongé le pays dans les pires violences de ces dernières années. Au moins 5 personnes ont perdu la vie et de nombreux dégâts matériels ont été notés. L'opposant a été inculpé pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Ses partisans dénoncent un complot visant à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2024. Ils demandent aussi au président Macky Sall de dire clairement qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Nous discuterons de la situation politique au Sénégal avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, VOA Afrique.
Au Togo, Noviekou Pialo Dadoyiram est coordonnatrice nationale du West Africa Network for Peacebuilding, une organisation sous-régionale créée en 1998. Elle doit promouvoir la participation des femmes dans les instances décisionnelles. Yacouba Ouédraogo a joint à Lomé au Togo Noviekou Pialo Dadoyiram, qui nous parle de l'engagement des femmes au double plan associatif et politique.
Au niveau de la société civile, on peut dire qu'on est satisfait parce qu'en termes de positionnement, il y a aujourd'hui beaucoup de femmes et de jeunes filles qui se positionnent au niveau des organisations. Je prends mon exemple, je suis responsable d'une structure depuis 6 ans, à moins de 35 ans. Ce n'est pas toujours évident, mais on a des exemples. J'ai mes pères qui sont aujourd'hui coordinatrices, secrétaires générales, directeurs exécutifs, et il y a aussi des aînés femmes qui sont aujourd'hui responsables de structure. Donc au niveau de la société civile aujourd'hui, on a un grand nombre de femmes qui se sont positionnées, pas juste parce qu'elles sont femmes. Ça, j'aime bien faire cette précision-là, parce que ce n'est pas une question de féminisation du concept, mais c'est en fait une question de nécessité d'apporter sa contribution en tant qu'actrice de développement. Par contre, au niveau politique, on ne voit pas beaucoup de femmes se positionner, et on comprend que le monde politique n'est pas la même réalité que le monde de la société civile. Mais là encore, oui, on peut se réjouir de voir des positionnements de taille. Parce que quand vous avez une femme Premier ministre, ça veut dire que c'est un signal intéressant. Quand vous avez une femme qui est générale du gouvernement, ça dit que c'est intéressant. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes au niveau politique, mais stratégiquement, elles sont à des positions de qualité. L'espoir peut-être serait aujourd'hui que dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir, qu'il y a vraiment cet engouement aux femmes de s'engager non seulement dans la société civile, mais aussi dans la sphère politique. Mais naturellement, on espère aussi que d'ici là, que le sphère politique serait plus, je dirais, accessible. Parce qu'il y a des réalités qui empêchent.
Quelles sont ces réalités-là et que faire pour les briser?
Dans les partis politiques, vous savez, à la base, il y a beaucoup de femmes qui sont là. Mais c'est quand vous montez un peu au niveau décisionnel, vous ne les voyez pas. Il y a les blocages liés à la présentation socioculturelle où les gens disent « Ah, tu es femme, tu fais la politique. » On a déjà des étiquettes qu'on te colle parce qu'on se dit « C'est une affaire d'homme. » Un autre défi qui est là, c'est aussi, je dirais, de la ressource financière. Ne fais pas la politique qu'il veut, mais qui a les moyens, qui a la capacité de pouvoir répondre à un certain nombre d'exigences. On vous demande une caution, par exemple, pour être candidat à la présidentielle. Ben, si vous n'avez pas un minimum, vous ne vous y engagez pas. Mais généralement, les femmes ont un pouvoir d'achat faible. Et donc, c'est autant d'éléments qui fait que les femmes préfèrent se retracter, être plutôt à la base, c'est-à-dire être dans la masse au niveau politique, être plus au niveau de la société civile, qui est peut-être plus clément comme environnement. Si le jeu politique est plus simple, je crois que les femmes auront envie de se positionner. Parce que si ça semble un peu dangereux, la femme regarde à sa famille, à ses enfants et se dit ben, « je ne prends pas ce risque-là ».
Noviekou Pialo Dadoyiram, coordonnatrice nationale du West Africa Network for Peacebuilding, basée au Togo.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Rappelez rendez-vous que RM Show chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.